Miam Miam de Ray Vax. Que pense un septuagénaire de Uber Eats? Fainéantise, hérésie, progrès, nouveau paradigme? Et que pense-t-il de l'émission Top Chef? La compétition culinaire en mode télé-réalité. L'alimentation occupe une place importante dans notre existence. Elle croise plusieurs dimensions. La santé, le plaisir, la convivialité, les traditions. Elle entretient même une relation adultère avec l'art. Se nourrir, c'est vital. C'est même essentiel. Selon le lieu, l'époque, la société, la culture, les traditions, la famille, la religion, manger est un signe d'opulence, un acte sacré, un protocole, un plaisir, un manque. Souvent, c'est un mix. Il y a de nombreux dictons de la vie courante faisant allusion à l'alimentation. Les yeux plus grands que le ventre. La moutarde monte au nez. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Les contes lui donnent aussi la part belle. Hansel et Gretel et la maison en biscuit. Cendrillon et son carrosse potiron. Le petit poussé. Il y a aussi cette fable de Moulla Nasruddin. Nasruddin est mis aux arrêts pour avoir proféré des paroles hérétiques. Le jour de son procès, le juge fait comparaître le moulla face aux 7 grands sages du pays qui l'ont mis en accusation en présence du sultan. « Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» demande le juge à Nasruddin. Pour toute plaidoirie, celui-ci demande aux 7 sages de répondre par écrit à une seule question. Qu'est-ce que le pain? Pour le juriste, c'est une nourriture. Pour le sage physicien, c'est de la farine et de l'eau. Pour le théologien, c'est un don du ciel. Pour le géographe, c'est une pâte cuite. Pour le philosophe, cela dépend de ce que l'on entend par pain. Pour le médecin, c'est une substance nutritive. Pour le sage historien, il est impossible de savoir ce qu'est vraiment du pain. Après avoir demandé au juge de lire à haute voix à toute l'assemblée réunie, Nasruddin se tourne vers le sultan et dit « Vénérable sultan, ces 7 grands sages sont incapables de se mettre d'accord pour définir une chose aussi simple que du pain qu'ils consomment tous les jours. Comment seraient-ils capables de se mettre d'accord pour décréter que je suis un hérétique ?» Cette anecdote du moulla Nasruddin, en plus de remettre à leur place les soi-disant grands sages, soulève également d'autres pistes de réflexion. Notre représentation des aliments dépend de notre état de conscience. Juger autrui sur la base de sa conception de l'alimentation relève d'un sérieux manque d'impartialité. Notre état de conscience, même si nous sommes très sages, ne nous permet pas d'appréhender la réalité dans sa totalité. Arrêtons d'extrapoler sans fin. C'est quand même un fait que nous jugeons souvent autrui selon son mode alimentaire. Par exemple, l'idée est très répandue que l'Amérique est le pays de la malbouffe. Mais qu'est-ce qui me permet d'avancer une telle affirmation? En ai-je la certitude? N'y a-t-il pas beaucoup d'Américains qui mangent sainement, qui font attention à leur alimentation? Sur 255 millions d'habitants, répartis sur 9 600 000 km², n'y a-t-il pas un minimum de diversité des comportements alimentaires? Dire que les Chinois mangent leurs chats, les Français des grenouilles, les Japonais des insectes, nous rangerait au banc de ces grands sages ridiculisés par Nasruddin. Une question cependant demeure. Qui n'a jamais mangé de pizza? Une base de farine, recouverte d'ingrédients divers et variés, puis passée au four. La formule universelle. Bref, ne jugeons pas autrui selon ce qu'il mange, mais apprenons des autres ce que leur alimentation nous révèle. Merci Nasruddin. J'aime bien cuisiner. C'est venu comme ça, sans que j'y prête vraiment attention. Je n'y étais pourtant pas vraiment prédisposé. Je me souviens des repas du soir avec mes parents quand j'étais enfant. Ma mère préparait des repas simples parce qu'elle n'avait pas beaucoup de temps après sa journée de travail. Elle faisait un bon potage. Nous mangions dans la cuisine en regardant la télé. La télé était dans la chambre de mes parents, juste à côté. Alors, nous mettions la table devant l'encadrement de la porte et regardions le journal télévisé en mangeant de la purée de pommes de terre avec des saucisses. Ensuite, c'était yaourt et compote, pendant un film avec Romy Schneider ou Jean-Paul Belmondo. Je crois que mon attirance pour la cuisine s'est éveillée quand je suis devenu végétarien dans les années 80. À l'occasion d'une escapade aux Antilles, j'ai fréquenté des Rastafaris. Ils avaient une hygiène de vie très saine, mangeaient de façon frugale et naturelle, un vrai modèle en matière de concept food. Vegan avant l'heure, circuit extra court, bio évidemment. De retour en métropole, j'ai commencé à cuisiner reggae. La base, c'était les trois couleurs, rouge, jaune, vert. Tomate, maïs, salade, par exemple. Et puis on pouvait ajouter toutes sortes de variantes. Et surtout, la noix de coco. Dans la cuisson, dans les sauces, cela donne une douceur tellement agréable. À l'époque, il y a une trentaine d'années, le bio, le végétarisme, l'altermondialisme, ce n'était pas nouveau, mais c'était encore marginal. De ce côté-là, les choses ont plutôt bien évolué. Bien sûr, pas mal de secteurs de la vie en société ont empiré. Mais côté cuisine, il y a un net progrès. Turc, vietnamien, irlandais, soudanais, polonais, libanais, marocain, tibétain, mexicain, breton, il y a tout à disposition. Par contre, je ne suis pas du tout dans le trip top chef. Je leur tire mon chapeau, mais je préfère la scène de la tarte à la crème de Laurel et Hardy. Hilarant. Je suis plutôt du style intuitif. Une recette, c'est une composition de couleurs, de parfums, de sons, de formes, de pincées, de poignées. C'est l'imagination qui transcende le comestible. Les ingrédients sont mes copains. Ils aiment se mélanger. Ils aiment quand ça bouge. Ils dansent, tantôt la farandole, tantôt le jerk, dans des casseroles, des marmites, des poêles. Les aubergines ont le droit à un traitement de faveur. Elles se font dorer la pilule au four, sur un transat d'aluminium, surveillé par 4 gousses d'ail enduites d'huile d'olive. Je commence souvent par le rituel de l'épluchage d'oignons. Toujours commencer par verser quelques larmes en offrande à la déesse Kitchen. Quand les oignons commencent à dorer dans la poêle, invariablement, quelqu'un passe dans les parages et s'exclame « ça sent bon !» Pendant mes études d'anglais à l'université, un semestre était consacré à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Au cours d'une séance de travaux dirigés, un enseignant réfuta l'idée reçue, bien connue, de « melting pot » qui donne une image d'une population américaine homogène et dont la pluralité des populations a été malaxé, mixé, dans un même pot, à la manière d'un milkshake, banane, maïs, piment, chocolat, menthe, cannelle. Avec beaucoup de sucre, évidemment. L'analyse de l'enseignant, basée sur la réalité factuelle de la société américaine, était qu'il s'agissait plutôt d'un salad bowl. Les ingrédients sont tous dans le même saladier, mais chacun garde son identité propre, et est reconnu comme tel, tous étant liés par une même sauce composée d'une sévère proportion de matière grasse, faisant de l'ensemble quelque chose de lourd à digérer. Cette image lui servait également de début d'explication au fort taux d'obésité de la population dans ce pays. Dans la même série, sur le plan physiologique, nous pouvons considérer que, en quelque sorte, nous sommes ce que nous mangeons. Tout ce que nous avalons se décompose en protéines, glucides, lipides, acides aminés, rejoignant enzymes et bactéries dans le grand laboratoire probiotique de nos intestins pour être acheminés par une ingéniosité fabuleuse dans tous les endroits de notre corps en fonction des nécessités. Et puis, faire à manger, c'est faire quelque chose pour les autres. Ma mère ne pressait pas les pommes de terre à la moulinette pour se faire plaisir, mais pour me faire plaisir. Merci maman. Quand je cuisine, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour les autres, pour partager quelque chose de bon, assis autour d'une table. Il y a une dimension de communion, on se relie les uns aux autres par les aliments. Pas étonnant que le dernier repas de Jésus ait une place aussi importante dans le mythe chrétien. La Sainte Cène. Ils n'ont pourtant pas mangé grand-chose, du pain et du vin. Oui, mais pas n'importe lesquels. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La recette de l'offrande ultime. Symboliquement, ce fameux repas nous plonge au cœur de notre propre réalité intime. Suis-je capable de donner ma vie pour ce que j'aime? Du coup, je fouille dans ma bibliothèque et j'en ressors une Bible. Je relis les évangiles du Nouveau Testament. Tiens, ça ce n'est pas banal. Je repère deux ou trois événements culinaires intéressants. Le premier étant un anti-événement, puisque Jésus commence sa mission par 40 jours de jeûne, à l'issue desquels il tient tête à un seigneur très très fort nommé Satan. Il y aurait tout un article à faire sur le jeûne, mais tenons-nous-en à notre sujet. Dans le récit hautement symbolique de la vie mythique du personnage Jésus, il y a pas mal d'allusions à la nourriture. Jésus fait son premier miracle à l'occasion d'un mariage. Pendant le banquet, le vin vient à manquer, alors il transforme de l'eau en vin. Quelques jours après, alors que du coup beaucoup de gens veulent vivre avec lui, ils se retrouvent sur une colline et ils ont faim. Comme il n'y a pas assez à manger, ils multiplient les pains. Mais pas trop, juste ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Il y a encore deux ou trois anecdotes au sujet du manger et du boire, d'une source qui redonne soif et d'une source qui étanche la soif. Et puis, on en arrive au dernier repas avec les 12 disciples, la veille de sa mort. Un personnage qui commence sa mission par un jeûne de 40 jours et la termine par un repas au cours duquel il offre son corps et son sang à ses amis les plus proches, les plus fidèles, c'est une belle leçon de vie. C'est fort. Ça inspire pour mettre un peu de cette force dans sa propre vie, non? Quand je hache du basilic ou que je tranche un chou rouge, est-ce que je perçois le lointain écho de cette leçon de vie qui résonne? Je n'y fais pas forcément attention, mais dans mes muscles qui tiennent le couteau ou la passoire, est-ce que c'est là? Je n'irai pas jusqu'à dire que la cuisine est pour moi un rituel, mais ça m'installe dans une bonne vibration. Il y a du flux, de l'énergie qui circule, qui vient de la terre et qui se donne en se transformant de mille façons. Et de même que la terre donne tout ce qu'elle a et ce qu'elle est, sans compter, avec tout son cœur, comme une mère, et que tout ce qu'elle est, ce qu'elle a, c'est grâce au soleil et à son énergie lumineuse, de même, la cuisine doit être épicée par ce rayonnement solaire universel. Que ce soit des lasagnes, un cheesecake ou une salade grecque, toujours incorporer quelques pincées de soleil. Avec ça, la Voie lactée elle-même deviendra un grand pudding auquel personne ne pourra résister.